Est-ce que on doit comprendre les crises économiques comme celle des subprimes principalement par un manque de régulation de la finance ou de manière plus large comme la manifestation des contradictions internes du capitalisme? Autrement dit, s'agit-il principalement d'une crise de la finance ou plus globalement d'une crise du capitalisme? Bien, je vais laisser maintenant la parole à Anne Zandinetas. Donc, Anne Zandinetas, vous êtes enseignante, militante politique à Lutte ouvrière.
Alors, donc bien sûr, hein, la crise de 2008, elle a pris une forme financière. Ceci dit, pour nous, elle est avant tout une crise du système, une crise qui a commencé dès les années, de la fin des années 60, qui a pris de multiples formes et qui se poursuit encore aujourd'hui. Alors, je tiens à dire que les questions que nous a posées Hervé, elles sont importantes. Parce qu'en fait, selon la réponse qu'on leur donne, les objectifs militants de ceux qui sont dans le camp des travailleurs ne seront pas les mêmes, voire ils seront opposés. Alors, je suis militante de Lutte ouvrière, nous sommes communistes et révolutionnaires. Nos idées, elles partent de la conviction formulée par Marx, Engels, Rosa Luxembourg, Lénine, Trotsky, pour ne citer que les principaux, hein, que le capitalisme n'est pas réformable, qu'il n'existe pas de bonne politique opposée à une mauvaise. Le système capitaliste est un système d'exploitation. Et ce système, il est en proie à des contradictions qui n'ont pas disparu depuis sa formation, au contraire. Les crises, elles font partie de ce système. Du temps de Marx, celle-ci éclatait tous les 10 ans. Mais à l'époque, le capitalisme était en pleine expansion. Comme l'écrivait Marx dans le manifeste du Parti communiste, hein, je le cite, « La bourgeoisie a créé bien d'autres merveilles que les pyramides d'Égypte, les aqueducs romains, les cathédrales gothiques. Elle a révolutionné les modes de production dans le sang, par la souffrance de millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Mais aujourd'hui, elle répond tout autant de souffrances, de violences. Mais elle ne développe plus l'économie. Elle est devenue un frein au progrès. Elle parasite la société. » Et pour paraphraser certains titres de livres d'économistes, la bourgeoisie s'auto-suicide et entraîne la société dans la barbarie. Nous allons vers la catastrophe. De quelle nature elle sera? Nous ne le savons pas. Mais si nous ne sommes pas capables de renverser ce système, la barbarie gagnera encore en intensité et cela, nous en sommes sûrs. La possibilité de changer la société et le rôle essentiel des travailleurs dans cette transformation ont été vérifiés par leur lutte depuis des siècles. C'est avec ces idées qu'il faut renouer aujourd'hui. Alors je voudrais d'abord montrer que la financiarisation de l'économie résulte d'une évolution inéluctable du capitalisme, qu'elle est le fruit de ses contradictions internes, et dans un deuxième temps, que les États ayant pour politique la défense des intérêts généraux de leur bourgeoisie, ils répondent à la demande de celle-ci. Aujourd'hui, la finance et les échanges qu'elle génère occupent dans l'économie mondiale un poids sans commune mesure avec la production de marchandises. En 2008, le rapport entre les échanges mondiaux de marchandises et de services et les transactions sur les marchés financiers était de l'ordre de 1 à 200. Ce nombre a encore progressé depuis. Cela signifie que des marchandises, des services passent de main en main des dizaines de fois, voire des centaines de fois, avant d'être réellement utilisées. De plus, les capitalistes ont développé des quantités de papiers de reconnaissance de dette, ensuite d'assurance sur ces reconnaissances de dette, à partir desquelles ils spéculent. Ils ont même créé des papiers qui les dépassent, en quelque sorte, parce que même eux n'y comprennent rien. De par leur imagination qui semble sans bornes, de nouveaux produits financiers ouvrant le voie à de nouvelles spéculations voient le jour, et c'est d'ailleurs une de ces inventions, la titrisation, qui a été à l'origine de la crise des subprimes en 2008. Alors l'ampleur de cette financiarisation, elle a vraiment de quoi affoler. Le comble, c'est qu'un certain nombre de ces initiés parmi le monde des capitalistes et des économistes qui sont à leur service, alertent leurs pairs sur les dangers de l'accroissement de la financiarisation. Dans son ouvrage « Crise financière, pourquoi les gouvernements ne font rien ?», le banquier Nolo écrit « Nous allons... Quand allons-nous collectivement faire cesser ce jeu diabolique d'une utilité économique vraiment douteuse dans un univers financier déjà fragilisé par l'abondance des liquidités ? Et ça, il l'écrit après avoir décrit les hedge funds, les CDS, les CDO et tout ce que vous voulez encore. Les grands bourgeois, ils ont de quoi s'affoler. Cette financiarisation de l'économie a des conséquences sociales et politiques directes. Elle provoque des guerres, la désagrégation de pays comme dans certaines zones d'Afrique, mais aussi des explosions sociales qui pourraient faire vaciller le système. Une société qui condamne à la misère une fraction de plus en plus importante de la population, alors qu'une minorité est à la tête de fortunes indécentes, provoquera des révolutions. Nous en sommes convaincus, mais nous ne sommes pas les seuls. En fait, il ne peut en être autrement. Alors un autre aspect affole les financiers eux-mêmes, c'est que les marchés vivent à la fois dans la peur d'un effondrement et dans l'euphorie des paliers atteints par la bourse ou par le montant des dividendes, etc., versés donc année après année. Mais chacun d'entre eux ne peut renoncer à ce jeu dangereux. Chacun se rêve d'être l'avant-dernier avant la catastrophe. Et c'est ce qui explique le caractère en apparence schizophrène des réactions d'un certain nombre d'acteurs de la finance. Inquiète ou non, la bourgeoisie est condamnée à continuer. Sa raison d'être, la base de son système, c'est l'augmentation des profits. Les capitalistes sont en concurrence les uns avec les autres pour l'accaparement de la plus-value, c'est-à-dire du fruit de l'exploitation. Et je tiens à rappeler ici une idée fondamentale, décrite là aussi par Marx il y a plus de 150 ans, c'est que c'est le travail humain qui crée des richesses. Au cours des échanges spéculatifs, aucune richesse n'est créée. Aucune marchandise, aucune activité réelle ne sort de ces échanges. Mais la répartition de la masse de plus-value, elle est modifiée en profit des uns, au détriment des autres, au travers de cette financiarisation. Alors pourquoi cette arène a pris autant de place par rapport à la production ? Et bien, en fait, la financiarisation, elle résulte de deux contradictions fondamentales du capitalisme. La capacité de production quasi illimitée face à un marché solvable, qui lui est limité, et la tendance à la baisse du taux de profit. Le développement de l'industrie a permis d'équiper toutes les familles riches, enfin dans les pays riches, pardon, tout au moins, de voitures, d'électroménagers, etc., dans la mesure où la population pouvait acheter tout ce qui sortait des chaînes de production. Mais dès la fin des années 70, les industriels se sont rendus compte que leurs ventes stagnaient. La surproduction menaçait. Or, cette expérience de la surproduction est bien connue des milieux bourgeois. Elle rappelait la crise de 1929, lorsque la croissance a chuté très rapidement, entraînant des fermetures d'usines, la mise au chômage de millions de travailleurs, la déstabilisation de la situation sociale et politique. Les États des pays riches, auxquels appartiennent la majorité des grands groupes industriels et financiers, ont donc réagi par des plans de relance, par une politique de crédit facile. Ils ont accentué leurs aides aux entreprises capitalistes, par des commandes, par des subventions, par des plans de sauvetage. Ils ont garanti le paiement des commandes d'État aux pays sous-développés. Ils ont garanti tous les prêts que les banquiers, ici et là, incitaient à prendre à des gens ou à des structures ou des institutions qui n'en avaient pas les moyens. Ils ont repoussé les limites du marché artificiellement. Et bien, cette politique, elle a fortement endetté l'ensemble des États et de façon catastrophique les États les plus pauvres. Alors, contrer la contraction du marché, en fait, ça ne pouvait même pas suffire parce que les capitalistes se heurtaient aussi à la stagnation, voire à la baisse du taux de profit. Sous la pression de la concurrence, les industriels sont obligés d'immobiliser des capitaux de plus en plus importants pour moderniser leurs entreprises. Le rendement de leurs capitaux est condamné à diminuer. Pour contrecarrer cette tendance, la croissance de la productivité doit être supérieure à celle des salaires. Les gains de productivité passent par des améliorations techniques, mais aussi, et c'est surtout à cela qu'on a assisté, à une intensification du travail, c'est-à-dire qu'on a fait exploser l'exploitation des salariés. Alors, il faut avoir en tête que les capitalistes ne se préoccupent pas du développement des forces productives, des infrastructures, des capacités de production, etc., mais uniquement de celles de leurs profits. La crise n'encourage pas les capitalistes à investir dans des machines qu'il faut des années à amortir, alors que les débouchés ne sont pas assurés. Par contre, le chômage qu'elle engendre leur permet de peser sur les salaires, et c'est par cette pression sur les salariés que les capitalistes parviennent à gagner en compétitivité et à augmenter la rentabilité de leurs entreprises. En limitant leurs investissements, le secteur qui produit pour la consommation, il entraîne une récession dans celui qui fournit les moyens de production. Et en réalité, dans le capitalisme, la partie la plus importante, le plus grand nombre d'entreprises, fonctionne vis-à-vis d'autres entreprises. Donc c'est ce secteur-là qui rentre en récession, donc en second. La crise actuelle a commencé dès la fin des années 60. Sa première expression a été monétaire avec l'abandon de la convertibilité du dollar en or. Puis, elle a pris la forme d'une crise pétrolière. Les trusts du pétrole ont choisi d'arrêter les investissements, de limiter la production en collaboration avec les pays producteurs, afin de créer une situation de pénurie. En augmentant le prix du pétrole, les trusts se sont assurés des surprofits pendant un temps. Pour justifier cette hausse de prix, hein, je vous rappelle, pour ceux qui ont connu ce moment-là, il y a eu une campagne, hein, parlant de la catastrophe, hein, de « c'était fini, il n'y aurait plus de pétrole », etc. Et finalement, aujourd'hui, ben, il y en a toujours. Face au rétrécissement du marché, les capitalistes se trouvaient face au problème le plus sérieux qu'il soit pour leur classe, que faire des capitaux accumulés. Et c'est pour répondre à ce problème que le secteur de la finance s'est développé. Avant même le démantèlement des règlements nationaux sur les prêts dans les années 80, donc dès les années 70, les banquiers cherchèrent le moyen de contourner les règles qui leur étaient imposées en accordant des crédits en dollars à l'extérieur des États-Unis. Ils ne fabriquaient pas de dollars à l'intérieur des États-Unis, mais ailleurs, et donc sans aucun contrôle. Et ce sont ces dollars qui ont pris le nom d'euro-dollars. Ainsi, les banquiers américains ne tombaient pas sous le coup des gendarmes de la finance. En quelques dizaines d'années, progressivement, toutes les digues mises en place depuis les années 30 et à la sortie de la guerre, de la Seconde Guerre, pour contrôler les échanges financiers, ont sauté. Cette dérégulation n'a pas été la décision de tel ou tel dirigeant libéral aveuglé par l'idéologie. Elle correspond aux besoins des capitalistes à un moment donné. Et c'est ce qui explique pourquoi certaines périodes y sont propices et d'autres non. Depuis cette période des années 70, la faible croissance économique, entrecoupée d'épisodes de crise plus ou moins violentes, est devenue en quelque sorte le fonctionnement normal du système. Alors celui-ci, il a été qualifié par un économiste de stagnation séculaire. Les Échos écrivaient en octobre 2016, je les cite, hein, « Et si les économies des pays avancés étaient devenues incapables de fabriquer de la croissance et de retrouver le plein emploi ? Et si cette situation d'inflation basse que nous connaissons est amenée à durer ? Et si les seuls soubresauts possibles de croissance n'étaient plus que ceux provoqués par des bulles spéculatives sur les marchés de l'immobilier ou quelques autres marchés financiers ? On entrerait en stagnation séculaire. » Dans le même article, les Échos expliquent que le fait que les banques centrales ont géré la crise de 2008 en inondant le système de crédit illimité n'a pas eu d'impact sur les investissements productifs. La spéculation a explosé, mais la médication appliquée après la crise de 2008 l'a encore amplifiée. Et finalement, le moyen de stopper la crise devient un moyen de l'entretenir et même de l'approfondir. Il n'y a plus de contrôle possible sur les liquidités créées. Chaque institution, fonds d'investissement ou autre, utilise les titres comme ils l'entendent. Et ces papiers qui représentent une activité à venir passent de main en main, mais sont aussi utilisés par d'autres institutions pour couvrir d'autres prêts. En 2012, une étude estimait que les mêmes titres étaient utilisés 2,5 fois en même temps. Des enquêtes sophistiquées sont nécessaires pour arriver à savoir où sont ces papiers, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Alors, face à ce système fou, quelle est la marge de manœuvre des gouvernements et des États ? Ben, que ce soit Patrick Artus, le chef économiste chez Natixis, ou Larry Fink, le PDG de BlackRock, le premier fonds d'investissement du monde, ils réclament des mesures gouvernementales, des règlements internationaux, bien qu'ils puisent de la finance une grande partie de leurs revenus. De même, les économistes atterrés soumettent leurs propres propositions. Mais aucun d'eux n'est écouté, et pour cause. Cela est impossible. Alors, parce que nous avons essayé de le montrer, le système n'a d'autre choix. Non seulement les capitaux engagés dans les investissements productifs sont marginaux, mais les États capitalistes des pays riches ont en quelque sorte fusionné avec leurs trusts. Aux États-Unis, c'est même Donald Trump, un de ses grandes fortunes, qui est directement à la tête de l'État. Mais même si ailleurs ce n'est pas directement le cas, la puissance de ces groupes internationaux est telle qu'elle décide de la politique menée. Les États deviennent leurs exécuteurs de bases œuvres. Par exemple, la plus puissante banque d'affaires américaine, la Goldman Sachs, n'a pas été étrangère aux décisions prises par l'État américain en 2008. Ses cadres dirigeants se retrouvent à de nombreux postes de commandement de l'État. Et cela explique le choix du gouvernement de laisser tomber la banque Lehman Brothers en faillite donc en 2008, qui est concurrente de la Goldman Sachs, alors que la banque Merrill Lynch, inversement, était sauvée. 15 jours plus tard, le gouvernement américain décidait de sauver le géant des assurances AIG, fortement endetté, auprès de, je vous laisse deviner, de la Goldman Sachs. De même, la banque fut une des principales bénéficiaires du plan de rachat des titres pourris décidé par l'État, bien que les règles établies l'empêchaient normalement d'y avoir le droit. Et là aussi, c'est Paulson, le secrétaire d'État au Trésor qui a mis ça en place et qui, en fait, est un ancien de la Goldman Sachs. Bon, et l'exemple là, c'est qui vient de sortir avec l'État italien, montre aussi comment les marchés financiers, ils décident de la politique qui est menée. Alors, au quotidien et depuis des années, le pillage de la société et des États, que les États organisent, conduisent, qu'on a évoqué, est l'expression de cette politique au service de la bourgeoisie. Et dans le même temps, cette évolution traduit la dépendance des multinationales vis-à-vis de leurs États par le succès qu'ils obtiennent à rançonner les classes populaires. Concrètement, c'est le maintien de l'ordre dans les pays pauvres, c'est l'influence des États capitalistes riches sur les plus pauvres, mais c'est aussi les mesures type loi El Khomri, etc., pour permettre aux patrons de licencier plus facilement, ou toutes les tentatives, dont une des dernières en date, c'est PSA, qui prévoit donc de faire travailler les gens plus longtemps sans les payer. La fusion entre les États et les sociétés capitalistes apparaît au travers de ces deux aspects. La pression des grands groupes sur l'État et le rôle de ces derniers comme béquille du capital. Donc enrayer la crise voudrait dire trouver le moyen de contrer les limites du marché par rapport aux capacités de production dans le cadre du système capitaliste. Et bien ces moyens n'existent pas. Les tentatives successives des États de suppléer à la contraction du marché deviennent la source même de la crise suivante. C'est une fuite en avant qui engendre de nouvelles contradictions, car elle repose sur l'endettement que les États compensent en prélevant sur la société de quoi rembourser et verser les intérêts à leurs créditeurs. Elle a donc pour conséquence une dégradation du niveau de vie des classes populaires et la destruction des services publics. Les revenus des classes exploitées sont transférés vers le capital financier au travers d'un véritable hold-up de l'argent collecté auprès des travailleurs sous forme d'impôts, de taxes. L'ampleur des intérêts enchaîne les États. Pour ce qui est de l'État français, malgré la baisse des taux d'intérêt depuis 2008, alors que les banques se financent quasiment gratuitement par les banques centrales, le remboursement reste un des principaux postes de dépenses. Il n'y a plus d'argent pour les services publics. Pour onérer les dettes, il faut économiser partout et donc ponctionner la population. La crise, elle a un autre effet, celui de concentrer les capitaux. Les opérations de fusion-acquisition ont fortement augmenté depuis le début de la crise. Entre 1977 et 1981, elles ont déjà été multipliées par 14. Et là encore, les montants en jeu et leur rythme n'ont cessé de s'accroître. En 2010, la somme engagée dans ces opérations atteignait 2 480 milliards de dollars, ce qui signifie que les multinationales sont devenues encore plus grosses que dans les années 80. Leur poids, leur mainmise sur l'économie a donc continué à progresser. Dès le début du siècle, les marxistes montraient déjà que le capital financier et industriel avait déjà fusionné. Aujourd'hui, la distinction entre capitalistes engagés dans l'économie réelle et capitalistes engagés dans l'économie financière n'a aucun sens. Renault, pour ne parler que d'un petit trust, est à la fois une entreprise industrielle et à la fois une banque. La famille de Wendel, connue pour avoir fait sa fortune dans la sidérurgie, a abandonné la sidérurgie au moment de la nationalisation avec la gauche, dans les années 80, et depuis, elle est de plus en plus influente sur le secteur financier. Alors, séparer l'ivraie du bon grain, à savoir sauver les capitalistes industriels et combattre les financiers, est tout simplement impossible. Pour mettre fin à la toute-puissance de la finance, il faudra plus que des changements de règles du jeu du fonctionnement actuel. Il faudra s'engager dans le bouleversement des rapports de production jusqu'à l'expropriation de la bourgeoisie. Car ce sont ces rapports de production qui font pourrir la société. Alors que le capitalisme a ouvert la voie de multiples découvertes à une organisation mondiale de l'économie sur la base de la violence et du sang, il est devenu malade, sénile, incapable de développer la production de façon harmonieuse en tenant compte des besoins et de la planète. Il pourrit sur pied. Dans une société mondialisée, la guerre, les idées réactionnaires gagnent du terrain, chacun se repliant sur soi pour sauver ce qu'il possède au détriment des autres, alors qu'une toute petite minorité concentre entre ses mains l'immense majorité des richesses créées par la collaboration des travailleurs à l'échelle du monde. Même en imaginant à la tête des États, des gouvernements ou des institutions qui gèrent le système des hommes et des femmes lucides, volontaires, ils se heurteraient à leur classe, qui ne peut renoncer à une part de profit si elle est dans une sauf si elle est dans une situation où elle peut tout perdre. Croire qu'on peut convaincre la bourgeoisie de renoncer à ses profits est en fait utopiste. Ces perspectives, elles ont d'ailleurs été défendues au XIXe siècle par les socialistes utopiques, les Fourier et autres. Ils ont cherché à convaincre les princes, les puissants, mais finalement, ça n'a pas marché. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, ils ont donné lieu, un certain nombre d'autres ont justement été plus loin et ont donné d'autres perspectives, et c'est ça qui a donné les perspectives communistes et révolutionnaires qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors pour nous, l'espoir de sortir de la crise, il est inséparable du renversement du système, où la classe ouvrière relève la tête, où il se trouve des militants pour défendre cette perspective, ou alors la société continuera à s'enfoncer dans l'horreur. Thank you.